Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons faire l'appel Catherine Dupuy-Ventrepol.
Madame Geneviève Darrieussecq, Monsieur Hervé Bayard, Monsieur Bertrand Tortigue, Madame Chantal Davidson, Madame Chantal Lutz, absente, donne pouvoir à Madame Geneviève Darrieussecq, Monsieur Jean-Pierre Pinto, Madame Eliane D'Artéron, Monsieur Farid Eba, Madame Marie-Christine Bourdieu, Monsieur Thierry Soko-Diabéère, Madame Catherine Piquet, Madame Jeanine Boudet, Monsieur Olivier Bousquet, absent, donne pouvoir à Monsieur Nicolas Tachon, Monsieur Arsène Buchy, Madame Chantal Couturier, Madame Catherine Dupuy-Ventrepol, présente, Madame Anne-Marie Hillcock, Monsieur Thibault Argueil, il va arriver, je pense. Monsieur Jean-François Laguaite, pardon, absent, donne pouvoir à Monsieur Bruno Rouffia, Madame Jeannine Lamaison, Monsieur Michel Meige, Madame Guylaine Nagui, Monsieur Bruno Rouffia, Monsieur Philippe Hérault, absent, donne pouvoir à Madame Chantal Couturier, Monsieur Nicolas Tachon, Madame Claude Taillé, absent, donne pouvoir à Monsieur Meige, Madame Danielle Lynx, Monsieur Alain Gaston.
Il donne un pouvoir à Madame Armango.
D'accord. Monsieur Renaud Lagrave, Madame Rose Lucie, Monsieur Alain Bachet, Monsieur Jean-Michel Carrère, Madame Geneviève Armango, Monsieur Abdallah El Bakali donne pouvoir à Monsieur Lagrave et Madame Michèle Berdot.
Bien. Merci. Bon, ce conseil municipal n'est pas très, très important puisque nous avons 11 délibérations que nous comptions ce soir. Nous avions prévu, puisque nous étions tous réunis, de pouvoir faire une présentation du plan communal de sauvegarde. Et puis, le centre de gestion, enfin les responsables de ce, au niveau du centre de gestion de ce plan communal de sauvegarde n'ont pas pu se libérer ce soir. Bon, c'est pas grave, hein, nous ferons cette présentation plus tard, peut-être dans une commission générale d'ailleurs, à l'occasion d'une commission générale. En tous les cas, nous avons donc maintenu ce conseil municipal, bien sûr, où nous aurons quelques points à débattre. Alors, trois délibérations qui concernent l'environnement, des délibérations sur l'urbanisme et puis la convention Festival Flamenco. Bien, je vous propose de démarrer immédiatement. Alors, voilà. Alors, il y a une installation qui est en cours. Donc, nous allons commencer par le compte-rendu des décisions entre le 27 mars et le 6 mai. Il n'y a pas grand-chose. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions? Oui, madame.
Nous n'avons pas eu les comptes rendus des derniers conseils municipaux.
Oui, alors les PV des derniers conseils municipaux, nous les ferons voter au mois de juin, lors du conseil municipal du mois de juin, parce qu'il y a eu... des congés, des vacances, voilà, que les choses étaient assez longues. Donc, ce sera, je ne vous en ai pas parlé parce que nous ne pouvons pas vous les présenter. Nous vous les présenterons au mois de juin. Donc, le compte-rendu des décisions, est-ce que vous avez rien de particulier? Parfait. Je vous propose de commencer par la deuxième délibération, parce qu'il y a une installation en cours pour la première. Si vous l'acceptez, il s'agit d'une convention de partenariat entre la ville de Mont-de-Marsan et le Conseil général des Landes relative à l'aire de démonstration du compostage à Nonner. Thierry Soko-Diabéère veut présenter... Ah pardon, Marie-Christine Bourdieu, excusez-moi, c'est vrai, l'espace vert en compost.
En effet. Bien, donc depuis 2005, le département s'est engagé dans un plan départemental de prévention des déchets. Dans ce cadre, le Conseil général des Landes souhaite mettre en place une aire de démonstration de compostage sur le site de l'ESAT de Nonner. Il a souhaité, pour mener à bien cette mission, s'entourer d'un certain nombre de partenaires, dont la ville de Mont-de-Marsan, qu'il a sollicité à ce sujet. Il est donc proposé au conseil municipal la participation de la ville de Mont-de-Marsan à cette action de sensibilisation et de formation à la pratique du compostage individuel. Considérant que la ville a un rôle pédagogique à jouer dans la valorisation des déchets ménagers de ses habitants, considérant qu'elle est en mesure d'approvisionner quelques déchets verts ou ménagers hebdomadaires par le biais de ses services techniques, considérant que la réalisation et la gestion de cette plateforme ne généreront pas de financement spécifique pour la ville, après avis de la commission d'urbanisme en date du 7 mai 2013, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la ville à cette démarche de prévention des déchets, décide donc de se porter partenaire du conseil général pour la mise en place et la gestion de cette plateforme et autorise Madame le maire à signer la convention qui définit les conditions dans lesquelles la ville adhère à cette démarche. Vous trouverez en annexe la convention ainsi que le règlement de fonctionnement de cette plateforme.
Merci Marie-Christine. Y a-t-il des questions ? Bon, j'imagine que ça ne pose pas de problème de composter et de porter le compostage auprès de nos concitoyens. Pas d'avis contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Alors, nous allons revenir à la première délibération, si vous le voulez bien. Il s'agit donc d'une délibération concernant un projet d'expérimentation, on peut l'appeler ainsi, sur les heures d'extinction de l'éclairage public à Mont-de-Marsan. Thierry Socodiabert.
Merci Madame le maire. Écoutez, en préambule de cette délibération, nous vous proposons de vous faire un bilan de la consommation énergétique de notre collectivité concernant notre patrimoine. Ainsi, un petit rappel. Dès 2008, notre municipalité s'est engagée dans un diagnostic énergétique de l'intégralité de son patrimoine bâti. Ce diagnostic s'est déroulé de novembre 2008 à mars 2009 et il donnait lieu à un rapport impliquant la présentation selon deux scénarios. Un scénario dit « maîtrisé » qui donnait des préconisations afin d'obtenir 20% de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2020 et un scénario dit « vertueux » donnant des préconisations afin d'obtenir 75% de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. On vous donne ici un exemple pour le diagnostic qui a été fait sur le groupe scolaire de Saint-Médard dans le cadre d'un scénario dit maîtrisé. Pour ce type de scénario, il aurait fallu procéder, alors c'est la dernière ligne du tableau du haut, à un investissement total de 71 064 euros. Dans la colonne, la quatrième colonne avant la fin, sur la gauche, vous avez le retour sur investissement qui aurait été sur 26 années. Et cela aurait fait un coût de 28 euros par mètre carré. Si nous avions voulu faire un scénario vertueux, alors là, les investissements auraient été de l'ordre de 700 000 euros. Et le retour sur investissement aurait été de 29 années, pour un coût par mètre carré de 280 euros. Ainsi, le constat qui a été fait, c'est que pour chacun des scénarios envisagés, nous avions un retour sur investissement qui était supérieur à 25 ans, qui était bien évidemment, je pense que vous le reconnaîtrez aisément avec nous, non compatible de la vétusté de ce groupe scolaire. Ainsi donc, en 2010, nous avons fait le choix de travailler à la reconstruction du groupe scolaire de Saint-Médard. Les études ont été menées à compter de 2011 et la première phase de reconstruction se fera cette année après que nous ayons procédé au cours de l'année 2012 à une sécurisation des financements. Si on prend un exemple des investissements qui ont été menés, je rappelle, donc diagnostic entre octobre 2008 et mars 2009, donc les investissements ont commencé à partir de 2010. Il y a eu pour 473 740 euros d'investis sur différents établissements. On peut parler de l'auberge landaise, on peut parler de l'école du Carboué, de la maternelle du centre, l'école Saint-Jean-d'Août, la salle du Bélier, la salle d'Orgambide, espace Mitterrand, entre autres. Ces 473 740 euros d'investissement représentent 3,6 points de fiscalité. Dans le même temps, quelles ont été nos consommations énergétiques ? Sur la période 2008-2012, eh bien 2012, nous avons consommé 10 millions de kilowattheures gaz, alors qu'en 2008, nous en consommions 12 millions 100 000. Concernant la consommation électrique, en 2012, 10 millions de kilowattheures, alors qu'en 2008, nous en consommions 10 300 000. Ce qui fait que nous sommes arrivés à faire des économies sur la période 2008-2012 de l'ordre de 21% pour le gaz et de 3% pour l'électricité. La consommation totale a donc été de 20 millions de kilowattheures en 2012 si on additionne le gaz et l'électricité, comparativement aux 22 400 000 kilowattheures qui étaient consommés en 2008. Il s'avère donc qu'il a été effectué une économie de 12% de nos consommations énergétiques. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Ces économies ne sont pas dues uniquement aux investissements que nous avons faits. Il y a aussi, et il faut pour cela les en remercier, eu un investissement permanent de l'ensemble des agents de la municipalité dans leurs actions de tous les jours, en prenant attention effectivement aux éclairages, aux consommations des ordinateurs, consommation de chauffage des différentes salles, quant à leur occupation, leur non-occupation, etc. Un vrai travail très important des agents. Et on tient à les en remercier et les féliciter. Concernant donc la facture énergétique entre 2008 et 2012, eh bien concernant le gaz, en 2012, nous avions 613 000 euros de facture. Alors qu'en 2008, nous étions à 556 226 euros. Pour l'électricité, en 2012, 1 233 000, quasiment 1 234 000 euros de consommation, de coûts, alors qu'en 2008, nous étions à 983 000 euros. Nous avons donc un surcoût sur la période 2008-2012 de 10,2% pour le gaz et de 25,5% pour l'électricité. Ce qui nous fait un bilan sur la consommation totale de 2008-2012, donc de 1 846 772 euros en 2012, ce qui représente, par rapport à 2008, quasiment plus 20% de factures énergétiques, soit 2,35 points de fiscalité. Ce qu'on peut en conclure de tout cela, ça représente quand même pas mal de chiffres, c'est qu'en 5 ans, on devrait dire aussi en 3 ans d'investissement, il a été réalisé 60% de l'objectif visé du scénario maîtrisé. C'est-à-dire que nous, qui, je le rappelle, est de viser les moins 20% de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. Bien évidemment, cela correspond aux 12% de diminution des consommations énergétiques. Dans le même temps, nous avons une augmentation de la facture énergétique de 20%. Par ailleurs, on nous l'a appris récemment, il nous faut envisager une augmentation des tarifs de l'électricité d'environ 30% à l'horizon 2016. Et étant au débat à Dax hier soir sur la transition énergétique, c'est 50% qu'il faut viser à l'horizon 2020. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Si on continue comme ça, si on ne prend pas d'autres solutions, on va finir par aller dans le mur. Il y a des solutions simples. Ce que j'ai appelé la solution de simplicité face à ce constat, ça serait d'augmenter les impôts. Vous le savez, ce n'est pas envisagé par notre municipalité. Il y a une solution immédiate, c'est ce que nous allons vous proposer dans le cadre de la délibération numéro 1, concernant l'éclairage public. Et puis, il y a les solutions d'avenir. C'est la volonté, que ce soit au niveau de la ville de Mont-de-Marsan et plus généralement au niveau de l'agglomération de Marsan, un engagement fort dans la transition énergétique, par la maîtrise des consommations, par l'autoconsommation autant que faire se peut des ENR qui seront mises en œuvre, et par la recherche de l'autonomie énergétique du territoire, comme nous l'avons voté à l'unanimité dans le cadre de l'approbation du SCOT en décembre au sein de l'agglomération de Marsan. Avez-vous des questions sur cette présentation avant que je passe à la délibération ?
Très bien. Oui, on peut. Bien sûr, après la délibération. Néanmoins, c'est vrai que quand on regarde les chiffres, on est quand même... Alors, bien entendu, on peut toujours penser que... On a l'impression de ne pas être récompensé des efforts que l'on fait, mais qui sont des efforts à faire, bien sûr, pour ne serait-ce que notre environnement. Mais investir presque 500 000 euros sur des choses relativement simples, atteindre des objectifs qui sont assez louables sur le plan environnemental, diminuer les consommations énergétiques de façon assez notable, mais se retrouver avec une augmentation de 20% de la facture énergétique parce que gaz et électricité augmentent régulièrement et dans un avenir assez proche continueront d'augmenter. Bien sûr que ça ne peut que nous inciter à poursuivre, mais c'est vrai que le but pour nous serait aussi, pour toutes les collectivités j'imagine, de freiner la facture énergétique. Et bon, visiblement, nous n'arrivons pas à la freiner. Donc c'est vrai que tous ces frais de fonctionnement finissent aussi par s'accumuler. Bien, la délibération.
Bien, je ne vais pas rappeler ce qui a été dit précédemment, effectivement. Donc juste vous dire que l'éclairage public représente 37% des consommations électriques de la ville. Que donc bien évidemment, malgré cette baisse de consommation depuis 2008, les dépenses pour l'éclairage public ont augmenté sur la même période de pratiquement 20% et représentent aujourd'hui 32% des dépenses d'électricité de la ville. Cette augmentation s'explique tout simplement par la hausse de plus de 33% du prix du kilowattheure. Donc, afin de continuer à réduire les consommations et tenter, si ce n'est de diminuer la facture énergétique, mais au moins, dans un premier temps, de la maintenir à un niveau constant, il est proposé de procéder à une expérimentation sur la réduction de l'éclairage public la nuit. Donc, une extinction de l'éclairage public une partie de la nuit pendant une plage horaire peu fréquentée par la population, entre minuit et 5 heures du matin, permettrait notamment la participation à la protection des écosystèmes en diminuant la pollution lumineuse pour la faune et la flore et les riverains, la baisse de la consommation électrique, la réduction des dépenses énergétiques, l'augmentation de la durée de vie des matériels et de leur maintenance, et la sensibilisation de la population sur la problématique énergétique. Après une analyse technique de l'état des réseaux par le pôle technique, il y avait eu un diagnostic de l'éclairage public, hein, aussi dans notre diagnostic général de patrimoine. Le quartier d'Agas-Beillet-Chourier a été choisi afin de réaliser un projet de réduction de l'éclairage public à titre expérimental. Dans ce projet ont été exclus le quartier centre-ville et les grands axes afin de faciliter le trafic de nuit. Pourquoi le quartier d'Agas-Beillet-Chourier ? Tout simplement parce qu'il représente à lui seul 20,60% des dépenses d'éclairage public de la ville en 2012. Et les consommations et dépenses pour l'éclairage public dans ce quartier ont augmenté respectivement de 14,50 et 39,50 depuis 2010. Donc le projet consiste à expérimenter sur ce quartier au niveau des quatre secteurs pavillonnaires en extinction totale, c'est-à-dire Sian, Martius, Lubeton et Clos Marcade, 21 secteurs pavillonnaires qui seraient éclairés un candélabre sur deux, et 7 secteurs totalement éclairés, ceux qui concernent la route du Hoga. Et ce, pendant une durée de 5 heures, entre minuit et 5 heures du matin. Cette opération a été présentée au conseil de quartier d'Agas-Beillet-Chourier, qui s'est réuni le 20 mars dernier. Avez-vous des questions ?
Monsieur Bachet, vous vouliez...
Voilà un exemple qui aurait mérité d'être présenté hier soir à la fameuse réunion sur la transition énergétique, que j'ai trouvé particulièrement faible en termes d'orientation, y compris en termes de réflexion du public, qui certes n'était pas nombreux, mais effectivement qui me laisse quand même très interrogatif. Je qualifierais le débat un peu « heureux les riches », comme ça les pauvres n'auront pas à profiter des bienfaits de la nature, entre guillemets. Pour en venir à notre décision, c'est bien qu'effectivement nous ayons cette volonté au niveau de la collectivité de faire en sorte qu'il y ait une consommation de l'énergie rationnelle et intelligente. Est-ce que la solution consiste à supprimer ou diminuer l'éclairage dans les quartiers? Je reste très interrogatif par rapport à ça. Mais peut-être qu'à partir de là, nous pourrions profiter des techniques nouvelles qui existent en termes d'éclairage. Puisque c'est des choses qui m'intéressent. J'ai eu à réfléchir et à croiser avec quelques personnes qui sont également très intéressés par cette question. Et il existe des éclairages aujourd'hui qui permettent d'avoir une autonomie de 12 heures qui prennent effectivement des réserves électriques en termes au niveau du soleil, au niveau du vent, et c'est une autonomie de 12 heures. Alors c'est un candélabre tout à fait effectivement moderne. Et je pense qu'il serait bien que notre collectivité, elle soit précurseur en la matière pour effectivement aller vers ça, parce que je crains que effectivement il y ait quelques mécontentements, puisque nous avons été saisis, puisque la presse s'en est déjà fait écho, nous avons été saisis par les habitants sur cette question, ils sont très interrogatifs, même si je sais qu'à Saint-Pierre-du-Mont, les choses ont été testées depuis quelques années, et plutôt que d'aller vers des extensions, moi je pense que la sagesse devrait nous conduire. Certes, c'est des investissements financiers, mais quand on regarde sur le long terme, ils sont effectivement amortissables très, très, très rapidement, d'aller vers l'utilisation de ces techniques, et il serait bien, c'est l'interpellation que nous faisons ce soir, que la ville investisse prochainement dans ce type d'éclairage, parce qu'effectivement, c'est effectivement une utilisation intelligente de ce que peut nous offrir la nature. Mais je le répète, ça aurait été bien, Monsieur Choucaud-Diabert, et je vous aurais appuyé hier soir si vous aviez cité cet exemple, ça aurait au moins enrichi le débat.
Vous savez, j'aurais aussi pu parler de la géothermie, etc. Je pense que les intervenants avaient été parfaitement choisis pour le débat qui était envisagé à ce moment-là. C'était prévu l'efficience énergétique des bâtiments. Et je suis d'accord avec vous, on a assisté à quelque chose de très pauvre intellectuellement hier soir. Par contre, concernant votre réflexion, je vous dis banco, monsieur Bachet. Je vais même vous dire que ça ne fait pas partie de cette délibération, mais que c'est déjà prévu. C'est-à-dire que nous avons deux types d'expérimentations. On vous parlera effectivement de l'autre, donc les lampadaires photovoltaïques. On peut vous le dire d'ores et déjà, on fera passer ça en délibération plus tard. Mais l'étude a été menée afin d'équiper le quartier de l'hippodrome, pour des raisons toutes simples, hein. C'est le plus éloigné, il est de l'autre côté de la base. Donc, le quartier de l'hippodrome sera équipé en deux phases, donc de lampadaires photovoltaïques. Ça sera effectivement une autre expérimentation pour voir ce qui est le plus intéressant, tant en termes de retour financier qu'en termes de retour aussi des usagers, nos citoyens. Voilà.
Mais je vous en prie, continuez.
Une réflexion plus globale qui, à mon avis, doit nous interpeller, l'ensemble des élus que nous sommes, c'est qu'effectivement, il faut se poser la question de quel système de production énergétique nous voulons. Est-ce que c'est un système marchand ou est-ce que c'est un système qui répond aux besoins des populations? Dans le cadre, moi, ce que je défends au moins, c'est un pôle public de l'énergie où, effectivement, aujourd'hui, on assiste à tout un tas d'aberrations. Je prendrai simplement l'histoire du photovoltaïque. C'est quand même curieux qu'on rachète l'électricité plus chère à ceux qui, aux citoyens, aux individus qui investissent dans ça. Oui, mais je peux vous donner des exemples pas loin d'ici où effectivement certains se font des revenus tranquilles parce qu'on leur paye l'électricité plus chère que EDF nous la revend à nous. Sauf que c'est ça qui explique en partie les hausses de 30% du coût de l'énergie, notamment de l'énergie électrique. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait au niveau national, une réflexion sur ce que doit être le mode d'énergie et dans quelles conditions il doit être géré, soit sur un mode public répondant aux besoins des populations, soit sur un mode marchand. Et suivant la réponse qu'on amène, effectivement, on aura l'électricité plus ou moins chère.
Bien. Voilà. On va peut-être pas répondre à cette question ce soir, parce que je ne pense pas que nous soyons l'assemblée la plus ad hoc pour traiter de ces sujets. Quand même vous dire que au-delà de ce que vous donnez comme chiffre, c'est quand même en France que l'électricité est la moins chère dans tous les pays européens, pour les raisons que vous connaissez et qui est l'engagement dans le nucléaire dans notre pays. Donc, voilà, ça va être difficile de dire d'un côté qu'il faut arrêter le nucléaire, de l'autre qu'il faut continuer à avoir une énergie pas chère. Et si nous mettons le doigt dans ce type de débat, nous pouvons effectivement avoir un conseil municipal très long, mais qui ne se limiterait pas à nos simples candélabres. Pour ce qui est de nos candélabres, il y en a quand même des milliers sur Mont-de-Marsan. Hein, il y en a des milliers, 160 km de voirie, 6500 points lumineux, voilà, très exactement. Donc, vous imaginez un petit peu le type d'investissement si vous vouliez changer tout le parc de candélabres en candélabres photovoltaïques. Il y a quand même un travail qui a été réalisé. Je n'ai pas dit que ce n'était pas des choses à envisager, puisque d'ailleurs, nous y travaillons. Il y a quand même un travail qui a été effectué depuis 2008 sur toutes les réfections avec les... Toutes les installations sont des ampoules LED, si je ne m'abuse, les installations nouvelles, en tous les cas. Donc, nous allons dans des systèmes qui sont de toute façon très performants en termes de consommation d'électricité. Pour cette expérimentation, oui, j'entends bien, vous avez des personnes qui vous ont déjà contacté ou qui ont déjà contacté ou qui ont été contactées par certains organes de presse, j'ai pu entendre, etc. Bon, moi, tout ce que je peux dire, c'est que sur un mode général, est-ce qu'il est possible qu'intelligemment, on explique à la population qu'on peut faire une expérimentation et que cette expérimentation, elle va nous permettre de voir comment cela fonctionne, qu'il y a, vous l'avez dans la délibération, un certain nombre de villes qui ont adopté ce système. Je voudrais, par exemple, vous citer la ville de Saint-Paul-les-Dax qui éteint la lumière entre minuit et 6 heures du matin en dehors des grands axes depuis une dizaine d'années. Et que cette extinction est désormais ancrée dans les mœurs et ne pose pas de problème particulier. Donc c'est vrai qu'il y a des problèmes de changement d'habitude, d'environnement qui s'est modifié quand on commence à travailler à 4 heures du matin et qu'il fait noir dans la rue. Comme ce sont des quartiers résidentiels, on a peut-être une lampe extérieure aussi pour aller jusqu'à sa voiture qui n'est pas à 10 km. Et il a quand même été prouvé par diverses études que moins il y avait de lumière et moins il y avait d'insécurité. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on rentre dans... Il faut véritablement... Alors, en plus, on n'invente rien, là, puisqu'il y a des tas de communes qui l'ont mis en place. Donc, on n'a pas inventé quelque chose de nouveau, mais je pense qu'on est obligé de s'inscrire dans cette dynamique... Par souci d'économie d'argent, peut-être, mais aussi par souci, d'obtention de résultats environnementaux vers lesquels on s'est engagé. Et je crois qu'il faut que nous y arrivions, parce que c'est important, pas que pour Mont-de-Marsan, c'est important pour la planète en général. Donc, c'est une expérimentation, ce sont des choses qui seront évaluées et ensuite, progressivement, étendu à d'autres quartiers en fonction des retours de cette expérimentation. Y a-t-il d'autres interventions ?
Excusez-moi, Mme le maire. Bon, même si c'est quelque peu anecdotique, mais il est fait référence dans la délibération au début de l'expérience après les fêtes de la Madeleine. Est-ce qu'il est prévu d'ores et déjà, et je pense que ça serait utile, que sur les 4 quartiers concernés par l'extinction totale, soit prévu une possibilité de dérogation durant la période des fêtes pour les années à venir par rapport à tous les retours piétons qui sont effectués. Hein, c'est à la marge, mais je pense que ça ne sera pas inutile.
Non.
Voilà.
C'est à la marge, mais effectivement, il faut adapter les choses à la vie de la cité. Donc ce sont des choses, bien sûr, tout à fait, choses que l'on peut tout à fait entendre. ou la nuit, la vie nocturne est beaucoup plus intense dans cette période-là. On ne sait pas pourquoi, mais c'est beaucoup plus intense. Bien, y a-t-il sur cette délibération des avis contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne donc une modification des statuts du Marsan agglomération avec une extension de la compétence protection et mise en valeur de l'environnement. En fait, c'est la prise de compétence gestion des rivières par la communauté d'agglomération. Thierry Socodiabert.
Donc, le schéma départemental de coopération intercommunale des Landes prévoit comme objectif dans son paragraphe 2.3 la réduction significative du nombre de syndicats, parmi lesquels figurent évidemment les syndicats de gestion et d'entretien de rivières. Dans un souci de cohérence territoriale et de mise en concordance des projets, conformément à la compétence précitée, le Conseil communautaire, au terme de la délibération numéro 13-081 en date du 26 mars 2013, a décidé que la gestion qualitative des rivières et affluents, si sur le territoire du Marsan agglomération, lui soit confiée. La communauté se substituera alors de plein droit à l'ensemble de ses communes membres au sein des structures gestionnaires existantes, et ce, dès que le transfert de compétences serait acté par arrêté préfectoral. Cette compétence prend concrètement la forme suivante concernant la gestion des cours d'eau. L'ensemble des cours d'eau du périmètre du Marsan agglomération est concerné au titre de la compétence de gestion des cours d'eau. L'objet de cette dernière est la définition, la promotion, la mise en œuvre et l'évaluation des opérations de gestion des cours d'eau s'inscrivant dans le cadre de l'intérêt général. La poursuite d'objectifs afin d'assurer le maintien, voire l'amélioration, de la qualité des cours d'eau et des milieux aquatiques connexes. Les thématiques suivantes, parce qu'elles relèvent de procédures spécifiques d'usage particulier ou d'autres maîtrises d'ouvrage, sont exclues du champ de compétences. C'est-à-dire aspect quantitatif, gestion quantitative de la ressource en eau, plan d'eau étant retenu et réservoir, gestion collective des eaux pluviales et Natura 2000. Le Marsan agglomération pourra participer en tant que partenaire, notamment au titre de personne morale compétente, et pour des avis et conseils techniques à toute procédure, réunion ou organe relevant de problématiques exclues de ses propres compétences. La communauté d'agglomération déléguera cette compétence de gestion des cours d'eau à chaque établissement public gestionnaire existant, ou qui pourraient être créés, et notamment dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale.
Très bien. Bon, donc vous avez un petit peu suivi. Hein. À l'heure actuelle, il y a un syndicat qui concerne Mont-de-Marsan, c'est le syndicat de la Midouze, qui va continuer sa vie, mais qui va être modifié dans son périmètre. Et il y a en fait un autre syndicat qui va être créé pour le Midou et la Douze, qui n'existait pas, puisqu'il n'y avait pas de syndicat de gestion de ces cours d'eau. Je parle pour Mont-de-Marsan, hein, c'est les périmètres de Mont-de-Marsan. Mais il a été fortement recommandé, et c'est tout à fait logique, compte tenu du fait que ce sont les cours d'eau qui sont dans leur ensemble pris en charge, en définitive, les bassins versants, que tout cela soit traité au niveau de l'agglomération, ça a beaucoup plus de sens. Donc, je vous ai demandé que la compétence rivière soit prise par l'agglomération. Y a-t-il des questions ? Vote contre ? Abstention ? C'est adopté à l'unanimité. Quelques sessions. Session des immeubles La Cataille et Madeleine. Hervé Bayard.
Alors, dans cette délibération, donc, il s'agit de procéder à la cession de deux immeubles, les immeubles dits La Cataille et Madeleine. Il a été décidé de proposer à la vente certains bâtiments désaffectés qui, par leurs vacances prolongées, leur inadaptation pour des services publics ou bien leur nouvelle destination, ne doivent plus nécessairement être propriété de la commune. C'est dans ce cadre que M. Laurent Le Guillou, la société Jardin des Plantes, a souhaité se porter acquéreur des bâtiments cadastrés AB 182 et 183, 6, 8 rue La Cataille et 1 rue de la Madeleine, abritant jadis des locaux associatifs et des bureaux. Les bâtiments sont vacants depuis de nombreuses années, à savoir depuis le déménagement des différentes associations à la caserne Bosquet. Ces deux immeubles ont de nombreux atouts, certes, situation géographique, proximité des commerces, volume, mais se révèlent aussi avoir des contraintes techniques liées notamment aux différences de niveau entre les deux bâtiments et à la problématique du stationnement. Aussi, il n'était pas envisageable pour la commune de réhabiliter ces deux biens, ni même pour l'office HLM à qui les bâtiments ont été proposés, mais qui n'a pas souhaité y donner suite. Le projet proposé par la société concernée porte sur une réhabilitation complète des bâtiments afin de créer 20 logements répartis en 8 T3, 7 T2 et 5 T1 avec éventuellement des commerces ou bureaux en rez-de-chaussée. Les façades et les structures de bâtiments seront gardées intactes afin de préserver l'architecture existante de ces deux bâtiments structurants du quartier. Après négociation, il a été convenu de proposer cette cession au prix de 300 000 euros net vendeur.
Y a-t-il des questions ? Monsieur Lagrave.
Juste une petite question. L'avis des domaines, c'est 345 000 500, exactement. Donc, on fait une ristourne de 45 500 euros, ce qui est au-dessus des 10%, jusqu'à preuve du contraire. C'est ça, je calcule bien. Hein. Ça paraît quand même beaucoup. Et puis, si on compare à ce que vous allez nous présenter dans la délibération juste après, 47 000 euros les domaines, 47 000 euros la vente, alors que ce n'est pas une opération... Là, on est dans une opération immobilière. À côté, c'est une accession à la propriété. Il n'y a aucune remise. Ce n'est pas tout à fait logique. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit.
D'accord, très bien. Vous devez savoir, monsieur Lagrave, que ces deux bâtiments... D'accord. Vous devez savoir, monsieur Lagrave, que ces deux bâtiments sont à la vente depuis fort longtemps. Et je serais tenté de dire que, ma foi, nous arrivons à la fin d'un processus qui a été long. Et nous avons enfin un acquéreur à 300 000 euros. De nombreuses personnes ont visité ces deux bâtiments, et du fait de leurs inconvénients, on en a parlé, notamment la typologie des lieux, beaucoup de gens ont dû renoncer. Voilà, donc on a trouvé un accord avec ce futur acquéreur à 300 000 euros. Vous faites la comparaison avec la vente suivante, sauf qu'il n'est pas précisé dans la délibération concernant la vente suivante que nous avons procédé à un certain nombre de travaux, de façon à répondre à des demandes formulées par la personne qui sera bientôt propriétaire de ce bien. Voilà, je pense notamment à des clôtures que nous avons opérées, notamment à des branchements électriques que nous avons faits, et qui, forcément, à partir de là, nous n'avons pas pensé qu'il était judicieux de procéder à une décote par rapport au prix des domaines.
Et dans la première vente, il y a un pourcentage de logements loyer modéré ?
Justement, donc j'allais rajouter cela, c'est que nous avons souhaité que, malgré le fait que ce soit deux immeubles bien séparés, bien distincts, ce soit la même opération qui soit développée, donc que ce soit un seul permis de construire qui soit déposé, et nous avons souhaité de ce fait qu'il y ait un quota de logements sociaux qui soit réalisé, c'est-à-dire de 25%. Nous avons mis en relation le futur acquéreur et l'office HLM de façon à ce que une opération dans ce sens puisse être développée.
Explique aussi une partie de la décote, hein, puisque l'idée est de pouvoir, sur un immeuble vraiment difficile, qui, Hervé Bayard a raison de le dire, d'ailleurs l'office public avait été contacté, on voulait lui céder et ils n'ont pas pu trouver une opération pour faire, un équilibre pour réaliser une opération. Ils ont refusé. Donc, moi, je pense que cette décote, elle est justifiée, quoi. C'est vraiment un immeuble quand même compliqué. Et franchement, s'il y a 20 logements là, donc de la population qui vient s'installer dans le centre-ville, dans ce quartier de la Madeleine, qui vient faire vivre ce centre-ville, je crois aussi que ce n'est que positif pour la ville de Mont-de-Marsan et pour le centre-ville. S'il n'y a pas d'autres questions, y a-t-il des votes contre, des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. La cession donc d'un logement de l'école du Péglé.
Alors, dans ce secteur, nous avions déjà procédé à deux cessions. Nous procédons à la troisième session, ici même. Donc, deux logements avaient été vendus en août 2011. Un troisième logement d'une surface habitable de 99 mètres carrés avec trois chambres et un terrain d'environ 280 mètres carrés a été proposé à Madame Annie Larcher, qui est locataire des lieux, institutrice à la retraite, et qui donc a souhaité devenir propriétaire de ce bien. Ce logement lié à l'école du Péglé a préalablement fait l'objet d'un avis favorable de désaffectation de logement scolaire par la préfecture et de l'inspection d'académie. Cette cession auprès de Mme Larcher s'effectuera au prix des domaines, à savoir 47 000 euros. Et je rappelle que, donc, comme j'ai répondu à la question précédente, que nous avons préalablement opéré un certain nombre de travaux de réhabilitation, notamment au niveau des clôtures et des branchements électriques, ce qui explique le fait que nous ayons maintenu le prix à 47 000 euros.
Y a-t-il des questions ? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Les transferts de parcelles dans le domaine public communal. Intégration Les Pins de Sarenceau.
Donc là, il s'agit de trois délibérations, donc la numéro 6, la numéro 7 et la numéro 8, qui concernent donc des transferts de parcelles dans le domaine public. La délibération numéro 6, donc il s'agit du lotissement Les Pins de Sarenceau. Donc la demande a été formulée par le propriétaire initial, M. Bellac Jean-Bernard, et après expertise de notre service, il a été accepté le fait que les parcelles BN numéro 2788 d'une superficie de 4376 m² et BN numéro 2789 d'une superficie de 5272 m² intègrent le domaine public.
Des questions ? Après le chemin du Vignon. Oui. Des avis contre ? Des abstentions ? Donc Sarenceau passe dans le domaine public. Le transfert de parcelles, donc Voirie, Morat, Capère, Carbouy, Claire.
Alors là, il s'agit principalement de délaissés et de régularisations qui sont effectuées à travers cette délibération. Donc, il est demandé à l'Assemblée municipale d'approuver le transfert du domaine privé et de la commune vers le domaine public des parcelles suivantes. Alors, bon, vous en avez quatre. Allée Claude Morat, Allée de la Capère, Impasse du Carboué et rue du Commandant Clair.
Pas de questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La délibération suivante, ce sont également des transferts de parcelles. Intégration du chemin piétonnier. Lequel donc ?
Alors, les copropriétaires de la résidence Le Petit Prince ont proposé à la commune la cession à titre gratuit d'un chemin piétonnier, qui est une servitude de passage, de l'avenue Rosanov jusqu'au parc Lacaze, ancienne allée Chartière. Le chemin est déjà délimité par une clôture et une haie. Un document d'arpentage a été dressé. Et donc, c'est pourquoi il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver l'acquisition à titre gratuit de ce chemin piétonnier.
Y a-t-il des questions ? Pas d'avis contre ? Pas d'abstention ? C'est adopté à l'unanimité. Une rectification de la délibération de transfert de parcelles dans le domaine public communal concernant... Le clos Marcadet.
Donc le clos Marcadet, donc il s'agit simplement d'une rectification puisque donc à l'occasion d'une précédente délibération, une erreur avait été commise puisque les parcelles concernées ne se trouvent pas en secteur BM, mais en section cadastrale BM, mais en section cadastrale BN.
Pas d'avis contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Nous en avons terminé avec les transferts de parcelles et autres cessions. Nous avons une délibération qui concerne la modification du tableau des effectifs des emplois communaux. Jean-Pierre Pinto.
Voilà, donc
suite aux listes d'aptitude de promotion interne établies au titre de l'année 2013 et après avis de la commission administrative paritaire du 27 mars 2013, il convient de modifier le tableau des effectifs des emplois communaux de la ville de Mont-de-Marsan pour pouvoir procéder aux nominations à compter donc du 1er juin 2013. Et donc on vous demande d'approuver la création des postes suivants, 2 postes dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux et 3 postes dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise. Et donc, ces postes sont créés sur le budget principal de la ville.
Des questions ? Pas d'avis contre ? Pas d'abstention ? C'est adopté à l'unanimité. Et enfin, la dernière délibération concerne la convention de partenariat entre la ville de Mont-de-Marsan et le Conseil général des Landes pour le Festival Flamenco 2013, convention classique qui passe tous les ans. Que vous avez dû tous lire, puisque c'est, je reprenne un petit peu, l'engagement financier de la ville est de 85 000 euros et la valorisation du personnel permanent de la ville de Mont-de-Marsan est de 73 000 euros, ce qui fait une participation de la ville de Mont-de-Marsan à cet événement à hauteur de pratiquement 160 000 euros. Y a-t-il pas de questions sur cette convention ? Pas d'avis contre ? Pas d'abstention ? C'est adopté. Plus personne ne m'écoute. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie.